L'île au trésor par Robert Louis Stevenson, 10e cassette, 2e face, page 238. Le châtelain nous attendait au haut de la pente douce qui menait de la grève à l'entrée de la caverne. Il me témoigna une bienveillance cordiale et n'eut pas un mot de blâme ou d'éloge pour mon escapade. Mais lorsque Silver l'eut salué poliment, il se mit à rougir de colère. « John Silver !» déclara-t-il. « Vous êtes un infâme coquin et un imposteur, un monstrueux imposteur, monsieur. On m'a demandé de ne pas vous poursuivre en justice, je m'abstiendrai donc de le faire. Mais les morts, monsieur, sont autant de pierres pendues à votre cou. »
« Je vous remercie tout cœur, monsieur, » répondit Long John en le saluant de nouveau.
« Je vous interdis de me remercier !» s'écria le châtelain. « Je me rends coupable d'un grave manquement à mon devoir. Retirez-vous !»
Sur ces mots, nous entrâmes tous dans la caverne. Spacieuse et bien aérée, elle renfermait une petite source et un bassin d'eau limpide entouré de fougères. Le sol était sablonneux. Le capitaine Smollett se trouvait étendu devant un grand feu. Dans un coin reculé, à peine éclairé par la lueur des flammes dansantes, j'aperçus de grands tas de pièces de monnaie et des piles carrées de lingots d'or. C'était le trésor de Flint que nous étions venus chercher si loin et qui avait déjà coûté la vie à 17 hommes de l'Hispaniola. Mais combien d'autres vies il avait coûté avant d'être amassé? Combien de sang et de larmes? Combien de beaux navires coulés en pleine mer? Combien de courageux marins condamnés au supplice de la planche? Combien de coups de canon? Combien de honte, de mensonges, de cruauté? Aucun être vivant n'aurait su le dire. Pourtant, il y avait encore 3 hommes sur l'île. Silver, le vieux Morgan et Ben Gunn, qui avaient participé à ces crimes en espérant vainement participer au butin.
Entre, Jim, me dit le capitaine. Tu es un brave garçon dans ton genre, mais je ne crois pas que nous reprendrons la mer ensemble. Tu es trop enfant gâté pour moi. Tiens, vous voilà, John Silver. Qu'est-ce qui vous amène ici, mon garçon?
Je reviens à mon poste, commandant.
Ah, dit le capitaine en guise de réponse. Quel agréable souper je fis ce soir-là au milieu de tous mes amis, avec de la viande de chèvre salée par Ben Gunn et quelques friandises et une bouteille de vin vieux provenant de l'Hispaniola. Jamais, j'en suis sûr, on ne vit compagnie plus gaie et plus heureuse. Silver était des nôtres, assis à l'écart, presque dans l'ombre, mangeant à belles dents, toujours prêt à s'élancer quand nous avions besoin de quelque chose, se joignant même discrètement à nos rires. Bref, le même Silver, affable, poli, obséquieux, que nous avions connu pendant le voyage. Chapitre 34e et dernier. Le lendemain matin, nous nous mîmes au travail de bonne heure, car c'était une tâche considérable pour un si petit nombre d'hommes que de transporter une telle masse d'or sur une distance de près d'un mille par terre jusqu'à la plage et de 3 bons milles par mer jusqu'à la goélette. Si tu veux avoir une idée de ce que ça représente, les 700 000 livres en or devaient faire près de 6 000 kilos. Et la distance était de plus de 1500 mètres, plus d'un kilomètre et demi à terre, à pied bien sûr, et de plus de 5 kilomètres par mer, dans un petit bateau. Les 3 pirates qui erraient encore dans l'île ne nous inquiétaient guère. Une seule sentinelle, postée au faîte de la colline, suffisait à nous garantir de toute attaque brusquée, et de plus, nous pensions qu'ils en avaient assez de se battre. En conséquence, le travail fut mené vivement. Gray et Ben Gunn faisaient la navette dans le canot, tandis que les autres entassaient le trésor sur la plage. 2 lingots noués au bout d'une corde constituaient une bonne charge pour un homme. Encore devait-il avancer lentement. Pour ma part, ne pouvant guère servir au transport, je m'occupais toute la journée dans la caverne à mettre les pièces de monnaie dans des sacs à biscuits. Elles formaient une étrange collection. semblable au magot de Billy Bones par sa diversité, mais tellement plus important et plus varié que je pris un immense plaisir à les classer. Pièces anglaises, françaises, espagnoles, portugaises, des Georges et des Louis, doublons, double guinée, moïdors, d'or, sequins, effigies de tous les rois d'Europe du siècle dernier. Étranges monnaies orientales, frappées de signes semblables à des bouts de ficelle ou à des fragments de toile d'araignée. Pièces rondes, pièces carrées, pièces percées d'un trou au milieu comme pour être portées en collier. Presque toutes les monnaies de l'univers figuraient, je crois, dans cette collection. Quant à leur nombre, il était considérable, car j'avais mal aux reins à force de me baisser pour les ramasser et mal aux doigts à force de les trier. Cette besogne se poursuivit pendant plusieurs jours. Chaque soir, une fortune se trouvait arrimée à bord de la goélette, mais il en restait une autre à transporter le lendemain matin. Et durant tout ce temps, les trois pirates survivants ne donnèrent aucun signe de vie. Enfin, la troisième ou la quatrième nuit, alors que nous flânions, le docteur et moi, à l'endroit de la colline d'où on domine les terres basses, le vent nous apporta, du fond des ténèbres compactes à nos pieds, un bruit qui tenait du cri et du chant. Seule cette bribe parvint à nos oreilles, puis de nouveau le silence régna. « Dieu leur pardonne !» s'exclama le docteur. « Ce sont les mutins !»« Tous ivres, docteur !» fit la voix de Silver derrière nous. Le cuisinier, je dois le dire, jouissait d'une entière liberté, et malgré des rebuffades quotidiennes, il semblait se considérer à nouveau comme un serviteur aimable et privilégié. En vérité, il supportait tous les affronts d'une façon étonnante, s'efforçant de se concilier la faveur de chacun par son inlassable politesse. Cependant, nul ne le traitait mieux qu'un chien, sauf Ben Gunn, qui avait encore terriblement peur de son ancien quartier-maître, et moi-même, qui lui devais bien une certaine gratitude, quoique sur ce sujet, j'eusse de bonnes raisons de le tenir en plus piètre estime que personne, car je l'avais vu sur le plateau projeter une nouvelle perfidie. En conséquence, ce fut d'un ton assez bourru que le docteur lui répondit « Ivre ou en proie au délire ?»« Oh, sans aucun doute, monsieur, et que ça soit l'un ou l'autre, on s'en moque pas mal, vous et moi, » dit Silver. « Vous n'espérez sans doute pas, je suppose, que je vous considère comme un homme compatissant, » répliqua le docteur d'un ton sarcastique. « C'est pourquoi mes sentiments vont peut-être vous surprendre, maître Silver. Mais si j'étais sûr qu'il soit en train de délirer, tout comme je suis moralement certain que l'un d'eux au moins a un accès de fièvre, je quitterais ce camp et au risque d'y laisser ma peau, j'irais leur apporter les secours de mon art. « Mande pardon, monsieur, » dit Silver, « vous auriez tout à fait tort. Vous perdriez votre précieuse existence. Je vous en fiche mon billet. Je suis avec vous maintenant, corps et âme, et je voudrais pas voir notre groupe diminuer, surtout de votre personne, étant donné que je sais ce que je vous dois. Mais ces hommes-là, ils seraient pas capables de tenir parole, même qu'ils le voudraient. Et par-dessus le marché, il ne pourrait pas croire que vous allez tenir la vôtre. Tandis que vous, vous êtes l'homme qui tient sa parole. Nous savons cela, répondit le docteur. Ce furent à peu près les dernières nouvelles que nous eûmes des trois pirates. Une fois seulement, nous entendîmes un coup de feu dans le lointain, d'où nous conclûmes qu'ils devaient chasser. Après avoir tenu conseil, nous décidâmes de les abandonner sur l'île, à la grande joie de Ben Gunn et avec l'entière approbation de Gray. Nous leur laissâmes une bonne quantité de poudre de balle, la majeure partie de la viande salée, quelques médicaments, divers objets de nécessité, outils, vêtements, voiles de rechange, deux ou trois brasses de cordes. Et sur les instances du docteur, une jolie provision de tabac. Nous avions auparavant arrimé le trésor dans la cale et embarqué pas mal d'eau et de viande de chèvre salée en cas de détresse. Finalement, un beau matin, nous levâmes l'ancre, non sans beaucoup de peine, puis nous sortîmes de la baie du Nord après avoir hissé le même pavillon que le capitaine avait arboré et défendu dans le fortin. Les trois boucaniers avaient dû nous observer de plus près que nous le pensions, et nous en donnèrent bientôt la preuve. En effet, tandis que nous serrions de près la pointe sud pour sortir de la passe, nous les vîmes là, tous les trois, agenouillés sur une langue de sable, les bras levés vers nous dans un geste suppliant. Cela nous fit mal au cœur à tous, je pense, de les abandonner dans cet état lamentable. Mais nous ne pouvions pas courir le risque d'une autre mutinerie, et d'autre part, les rapatrier pour les envoyer à la potence eût été une bien cruelle espèce de bonté. Le docteur les héla et leur dit à quel endroit nous leur avions laissé des provisions. Mais ils continuèrent à nous appeler par nos noms en nous suppliant, pour l'amour du ciel, de nous montrer miséricordieux et de ne pas les laisser mourir dans un lieu pareil. Finalement, voyant que la goélette s'éloignait rapidement hors de portée de voix, l'un d'eux, je ne sais lequel, se dressa d'un bond en poussant un cri rauque, épaula vivement son fusil et tira une balle qui passa en sifflant au-dessus de la tête de Silver pour aller ensuite percer la grand-voile. Après cette alerte, nous nous abritâmes derrière le bastingage. Quand je regardai de nouveau, les trois hommes avaient disparu de la langue de sable qui elle-même commençait à s'estomper dans le lointain. Ainsi prit fin ce dernier incident et avant midi, à ma joie inexprimable, le plus haut sommet de l'île au trésor s'était enfoncé dans la mer d'azur. Nous étions si peu nombreux à bord de la goélette que chacun de nous dut participer à la manœuvre et aux diverses besognes, à l'exception du capitaine qui, étendu à l'arrière sur un matelas, se contentait de donner des ordres. En effet, bien que son état se fût grandement amélioré, il avait encore besoin de repos. Nous mîmes le cap vers le port des Antilles le plus proche, car nous ne pouvions pas nous aventurer à entreprendre le voyage de retour sans avoir complété notre équipage. En l'occurrence, ayant dû affronter des vents contraires et quelques fortes bourrasques, nous arrivâmes à destination complètement exténués. Le soleil se couchait lorsque nous jetâmes l'ancre dans un golfe splendide, bien abrité de tous côtés. Nous fûmes aussitôt entourés par des pirogues pleines de nègres, d'indiens du Mexique et de métis qui venaient vendre des fruits et des légumes ou offraient de plonger pour aller chercher des pièces de monnaie. La vue de toutes ces figures épanouies, surtout celle des nègres, la saveur des fruits des tropiques et surtout les lumières qui commençaient à briller dans la ville offraient un contraste délicieux avec notre sinistre et sanglant séjour dans l'île au trésor. Le docteur et le châtelain m'emmenèrent passer la soirée à terre avec eux. Là, ils rencontrèrent le capitaine d'un vaisseau de guerre anglais, lièrent conversation avec lui, montèrent à son bord et y passèrent le temps de façon si agréable que l'aube pointait quand nous accostâmes l'Hispaniola. Ben Gunn était seul sur le pont. Dès notre arrivée, il se mit en devoir de nous faire un aveu tout en se livrant à des contorsions extraordinaires. Silver s'était enfui. Le marron, Ben Gunn, l'avait aidé à s'échapper dans une pirogue quelques heures auparavant. Il nous affirma qu'il avait agi de la sorte uniquement pour nous sauver la vie, car nous aurions été en danger mortel tant que cet homme amputé d'une jambe serait resté à bord. Le cuisinier n'était pas parti les mains vides. Après avoir pratiqué un trou en cachette dans une cloison, il s'était emparé d'un sac de pièces d'or qui valait 300 ou 400 guinées en vue de ses voyages à venir. 300 ou 400 guinées, c'est peut-être la valeur de 300 ou 400 000 francs d'aujourd'hui. Je crois que nous fûmes tous contents d'être débarrassés de lui à si bon compte. Pour abréger ce long récit, je me contenterai d'ajouter que nous embarquâmes plusieurs matelots, que nous fîmes un bon voyage de retour et que l'Hispaniola atteignit le port de Bristol en Angleterre au moment où M. Blandley s'apprêtait à équiper le bateau de secours. De tous ceux qui étaient partis sur la goélette, 5 hommes seulement revenaient. La boisson et le diable avaient réglé leur compte aux autres, de furieuses manières. Mais à vrai dire, notre cas était moins grave que celui du navire de la chanson. Sur les 75 qui avaient embarqué, il n'en restait qu'un de vivant. chacun de nous reçut une bonne part du trésor et l'utilisa follement ou sagement, selon sa nature. Le capitaine Smollett a cessé de naviguer. Gray ne se contenta pas d'économiser son argent. Devenu subitement ambitieux, il se mit à étudier sa profession et il est maintenant second sur un beau navire dont il possède la moitié. En outre, il est marié et père de famille. Quant à Ben Gunn, il reçut 1000 livres qu'il dépensa ou perdit en 3 semaines, ou pour être plus précis, en 19 jours, car il revint complètement à sec le 20e. On lui donna alors une petite maison à garder, exactement ce qu'il avait craint quand il était sur l'île. Il vit toujours, très aimé des enfants du pays, qui se moquent parfois de lui, et il est très apprécié comme chanteur à l'église, les dimanches et jours de fête. Nous n'avons plus jamais entendu parler de Silver. Ce terrible marin amputé d'une jambe a enfin complètement disparu de mon existence. Je suppose qu'il a retrouvé sa vieille négresse et que peut-être il coule des jours heureux avec elle et son perroquet, le capitaine Flint. Du moins, il faut l'espérer, car ses chances de bonheur dans l'autre monde me paraissent bien minces. Les lingots d'argent et les armes reposent toujours, pour autant que je sache, à l'endroit où Flint les a enterrés. En ce qui me concerne, ils peuvent y rester éternellement. Rien au monde ne saurait me faire revenir à cette île maudite. Mes plus terribles cauchemars sont ceux où j'entends le ressac mugir sur ses côtes, ou encore ceux où je me réveille en sursaut et me dresse sur mon lit en entendant la voix stridente de Capitaine Flint crier à mes oreilles « Pièce de vite, pièce de vite, pièce de... » Fin du roman « L'île au trésor ». Tu seras peut-être intéressé par quelques mots sur son auteur, Robert Louis Stevenson. Il est né en Écosse, à Édimbourg, Édimbourg, le 13 novembre 1850. Il y a donc près de 140 ans. Et le roman qu'il a écrit se passe encore un siècle avant, au deuxième tiers à peu près du XVIIIe siècle. C'était un enfant maladif. Il entreprit de nombreux voyages avec son père. Il fit toutefois de brillantes études, ingénieur, avocat, mais se consacra ensuite à devenir un écrivain. Commence pour lui une vie d'errance comme pour fuir une maladie trop encombrante, tributaire de ce corps malade qu'il n'arrive pas à oublier. Des images défilent, frénétiques et impérieuses, le contraignant à des migrations toujours nouvelles. La France, l'Allemagne, l'Amérique, puis dans l'océan Pacifique, les îles Marquises, les îles Gilbert, pour finir enfin ses jours dans l'archipel des Samoa, S-A-M-O-A-S, où il meurt d'une crise d'apoplexie le 3 décembre 1894. Sa tombe, sur le pic Vaca, V-A-C-A, domine l'océan Pacifique comme un ultime retour sur un monde sans horizon qu'il n'aurait jamais fini d'arpenter. Fin de la deuxième face de la 10e et dernière cassette, L'île au trésor par Robert Louis Stevenson.